RFI. En 14h30 à Paris, vous êtes bien sur RFI et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Au Burkina, la présidence annonce que le capitaine Ibrahim Traoré a présidé ce matin le Conseil des ministres. Initialement prévu hier, ce conseil avait été reporté sur fond de grandes incertitudes sur les événements en cours dans le pays et de grogne dans les forces armées. Plus $1 milliard annoncés ce matin à Paris au sommet mondial de la vaccination pour accélérer la production de vaccins en Afrique. Le continent continue aujourd'hui d'importer 99% des vaccins dont il a besoin.
Et alors comment développer la production en Afrique? On en parle avec le docteur Ngachi Ngongo, chef du bureau exécutif du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Il est l'invité d'Afrique Midi.
Et puis RFI a pu consulter en avant-première les points clés du projet de future constitution gabonaise. Le texte consacre un régime présidentiel et de stricts garde-fous pour éviter les dérives. À Ouagadougou, le Conseil des ministres qui devait se tenir hier a finalement eu lieu ce matin. Sur des photos fournies par les autorités burkinabées, on voit un Ibrahim Traoré souriant et détendu. Souriant alors qu'il règne de grandes incertitudes à Ouagadougou, Frédéric Gara, nourri par des questions dont on n'a pas toutes les réponses.
Oui Nicolas, la première de ces questions, c'est où réside au jour le jour le chef de l'État après l'attaque du JNIM sur Mansila le 11 juin qui a fait au moins 100 morts dans les rangs de l'armée et l'épisode d'une roquette tombée sur la RTB mercredi dernier en plein Conseil des ministres. Le président de la transition aurait été mis à l'abri dans la banlieue de Ouagadougou, à Lumbila, dans une base accueillant des militaires russes. Une mise à l'abri sortie d'un prompt renfort de soldats maliens et de supplétifs de Wagner débarqués par avion de Gao le week-end dernier pour protéger le chef de la transition. Deuxième interrogation, quid du sort du président? Le fiasco de Mansila a jeté un froid pour le moins au sein de l'armée où certains contestent la compétence du pouvoir en place pour contrer l'avancée des djihadistes. Plusieurs brigades d'intervention rapide auraient fait un refus d'obstacle lorsqu'il s'est agi d'aller contre-attaquer les djihadistes de Mansila. Et l'autorité du chef suprême des armées, Ibrahim Traoré, qui se vantait de pouvoir régler le problème terroriste en 3 mois, eh bien cette autorité vacille de plus en plus.
Alors, de nombreuses hypothèses circulent à Ouagadougou à propos de tractations sur la présidence burkinabé.
Oui, l'une consiste à dire que Ibé va surmonter cette vague contestataire au sein de l'armée avec l'assentiment et le soutien des pays frères de l'AES et notamment du Mali qui n'envoie pas que des hommes mais aussi des messages. Difficile en effet pour Bamako d'imaginer que le patron du Burkina soit une personne qui ne serait pas en phase avec la Grande Alliance des États du Sahel. L'autre hypothèse serait un départ ou une mise à l'écart du capitaine Traoré. Bon nombre de hauts gradés n'ont jamais accepté d'être soumis à l'autorité d'un subalterne dans la hiérarchie militaire. Certains seraient à la recherche d'un homme providentiel au sein de cette armée aux compétences éprouvées en matière de lutte antiterroriste et qui serait aussi plus ouvert à un retour de la société civile et des politiques qui, depuis l'avènement de Ibé, eh bien, sont priés de se taire.
Et en cette journée mondiale des réfugiés, gros plan sur ces Burkinabés qui fuient l'insécurité dans leur pays. Officiellement, 60 000 personnes seraient arrivées en Côte d'Ivoire depuis 2021, selon les dernières statistiques du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Principalement des femmes et des enfants, et les arrivées continuent. À la préfecture de Ferke-Sédougou, le reportage de l'envoyé spécial de RFI Bintadiagne.
Visage serré et bras croisés, Aïssatou a le regard vide. Cette femme d'âge mûr, originaire de la province de Houndé, dit être arrivée il y a quelques jours seulement à Ferke-Sédougou avec son mari, ses 2 coépouses et leurs 15 enfants. Aïssatou affirme avoir quitté son village par mesure de prévention.
J'ai quitté le Burkina à cause des conflits. Des hommes armés ont attaqué un village proche de chez moi. Ils ont ensuite menacé d'attaquer mon village. Alors tout le monde a fui. Nous sommes partis jusqu'à Bobo Dioulasso. Puis nous avons pris des bus pour arriver jusqu'à Ferke-Sédougou.
Pour bénéficier des aides des ONG et du gouvernement, cette famille doit passer par une étape administrative importante, l'enregistrement auprès des équipes de la DARA, la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, et celle du HCR. Yves Guidi est chargé de l'enregistrement au HCR de Ferke-Sédougou.
Une fois l'enregistrement est fait ici, biométrique est fait ici, prochainement, quand la famille se représente, on va vérifier et automatiquement ses empreintes s'affiche sur l'ordinateur. Directement, on sait que c'est une famille déjà enregistrée et ça évite les doublons. Après cette étape-là, quand on prend la photo, l'empreinte, l'iris, on va maintenant imprimer la preuve d'enregistrement.
Difficile d'évaluer le nombre exact d'arrivées, les flux sont quotidiens et on ignore combien de personnes échappent à l'enregistrement biométrique dans les villes proches de la frontière. Bintadiane, de retour de Ferkessédougou, RFI.
Le Forum pour la souveraineté et l'innovation vaccinale s'est ouvert ce matin à Paris. Il est co-organisé par la France, l'Union africaine et le Gavi, l'Alliance mondiale du vaccin au Quai d'Orsay. Les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye ou le rwandais Paul Kagame notamment ont fait le déplacement. Lisa Fabian, vous suivez les débats. Les chefs d'État se sont exprimés dès l'ouverture du sommet.
Oui, les chefs d'État, les représentants de l'Alliance du vaccin et ceux de l'Union africaine ont affiché leur volonté de faire front commun pour mieux financer la santé en Afrique. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a notamment rappelé comment la pandémie de Covid-19 a mis en évidence des disparités structurelles entre les pays développés et les pays en développement dans le domaine de la vaccination.
Bien que l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale, son industrie de vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale. Le continent est encore largement tributaire d'autres régions du monde pour couvrir ses besoins.
Des projets ont bien été lancés depuis la pandémie, notamment au Rwanda où la firme allemande BioNTech s'est implantée et où elle devrait produire à terme un vaccin anti-Covid-19, mais aussi contre le paludisme et la tuberculose. Le président Paul Kagame est présent à Paris.
L'objectif ambitieux que nous devons viser est de créer de nouveaux vaccins et des thérapies pour combattre les maladies qui ravagent le continent africain en utilisant les dernières technologies.
Plus $1 milliard ont déjà été annoncés pour renforcer la production en Afrique et mettre sur pied un ambitieux accélérateur de la production des vaccins en Afrique pour soutenir ces projets.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, on revient sur les défis de la production des vaccins sur le continent avec le docteur Ngachi Ngongo, chef du bureau exécutif du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, l'agence de santé publique de l'Union africaine. Et puis, c'est aujourd'hui la première rencontre entre le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue français Emmanuel Macron. Ils sont en train de s'entretenir. Ils devraient aborder cet après-midi les bases de leur futur dialogue et aborder notamment la question de l'avenir de la coopération militaire entre la France et le Sénégal. On connaît les principaux points du projet de la future constitution gabonaise. Vous avez pu les obtenir, Sébastien Nemetz. Alors on parle du nouveau texte sur lequel ont planché un comité de 21 personnes suite au dialogue national. Et il consacre, Sébastien, un régime présidentiel, mais aussi des garde-fous pour éviter les dérives.
Oui, un membre du comité parle de la constitution la plus démocratique de l'histoire du pays, dérivant directement des Gabonais eux-mêmes. Le texte consacre un régime présidentiel avec un souci méticuleux de préserver l'équilibre et la séparation des pouvoirs, estime un des rédacteurs. Côté exécutif, le Premier ministre disparaît. Le président devient chef de l'État et chef du gouvernement. Il est élu pour 7 ans, renouvelable une fois, devra être Gabonais de père et de mère et sans double nationalité. Premier garde-fou, il sera responsable devant le Parlement, avec une destitution possible si 2/3 des parlementaires la votent. Le mécanisme pourra être actionné pour les crimes de haute trahison, incluant la corruption, intelligence avec une puissance terroriste ou encore le détournement de fonds. Destitution possible aussi en cas de violation du serment ou de la Constitution.
Autre garde-fou prévu, des dispositifs pour empêcher les tripatouillages de la Constitution.
Oui, plusieurs articles seront inviolables, comme ceux sur la durée et le nombre de mandats, mais pas seulement. On aura aussi une double protection puisque l'article garantissant cette inviolabilité sera lui-même inviolable. Réviser la Constitution devra ainsi être exceptionnel et se faire par référendum. Le Parlement pourra changer le texte, mais pour des questions mineures. Les parlementaires, eux, auront un mandat de 5 ans renouvelable à vie. Les élus pourront aussi interpeller le président qui devra venir s'expliquer. Enfin, concernant le judiciaire, les experts ont là encore voulu limiter l'influence du politique. Le chef de l'État continuera de diriger le Conseil supérieur de la magistrature, qui toutefois n'aura plus de députés parmi ses membres. Le ministre de la Justice, lui, ne sera plus chef du parquet, renforçant ainsi l'indépendance des juges d'instruction. Enfin, la Cour constitutionnelle, l'instance suprême qui a été tant critiquée, ces juges seront issus d'un savant mélange entre 4 magistrats, 3 professeurs de droit constitutionnel, un avocat et un fonctionnaire spécialisé dans le judiciaire.
Les détails exclusifs sur ce projet de future constitution gabonaise à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi lance ce matin à Lubumbashi une nouvelle saison du service national. Il s'agit d'un service civique volontaire. Plus de 500 jeunes gens désœuvrés ont déjà été enrôlés et envoyés au centre de Kanyama-Kasese, au centre de la région du Katanga, pour apprendre différents métiers, dont l'agriculture. Mais à Lubumbashi, cette opération menée par la police suscite des controverses. Que ce soit les responsables de l'Église catholique, ceux de l'opposition ou encore la société civile, tous dénoncent un enrôlement forcé qui viole les droits de l'homme, Denise Maheo.
Ce week-end, 200 jeunes ont pris l'avion de Lubumbashi vers le centre de Kanyama-Kasese où ils vont intégrer le service national. Mais pour Hervé Diakese, porte-parole du parti politique de l'opposition Ensemble pour la République, le recrutement ne s'est pas fait selon les règles. Ces jeunes ont d'abord été interpellés par la police.
Lorsqu'on doit décider d'arrêter un individu parce qu'on trouve que la forme de sa chevelure est trop abondante, que son style vestimentaire vous déplaît, et la police est maintenant chargée de pouvoir arrêter de telles personnes et de les amener directement au service national. Ça devient du travail forcé.
De son côté, l'archevêque de Lubumbashi rappelle que le service national a été créé pour accueillir des jeunes diplômés et désœuvrés qui se portent volontaires pour être initiés aux divers métiers et au patriotisme. Monseigneur Fulgence Moutiba.
Au début de cette opération, quand Zéla commencer, c'était sur la base volontaire, un peu comme on les fait pour enrôler les jeunes qui vont dans l'armée ou dans la police. Et donc, leurs libertés doivent être fondamentalement respectées.
La Commission nationale de droits de l'homme à Lubumbashi, elle aussi déplore des cas d'arrestation arbitraire lors de cette opération. Pour leur part, les responsables du service national soutiennent que ces jeunes s'engagent volontairement. Denis Mayo, Lubumbashi, RFI.
Il est 14h42 à Lubumbashi.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, reportage à N'Djamena dans les quartiers impactés par l'incendie qui a ravagé l'un des plus gros dépôts de munitions de la ville. Et puis le Cameroun, rappelé à l'ordre par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Yaoundé n'a pas respecté ses engagements en matière de cofinancement. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce jeudi, 5 migrants retrouvés morts à bord d'une embarcation au large de l'archipel des Canaries. Au moins 68 autres ont pu être secourus, selon les services de secours espagnols. Le choc dans les quartiers de N'Djamena, 2 jours après l'incendie du dépôt de munitions du quartier de Goudji. Mardi soir, le ciel de la capitale tchadienne s'était embrasé quand un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans ce dépôt, provoquant des explosions en série. Bilan, 9 morts, 46 blessés selon le gouvernement. Et sur place, un spectacle de désolation. Reportage Carole Valade.
La porte, les fenêtres, tout est cassé.
Armat Abakar, fonctionnaire de 24 ans, nous invite à pénétrer dans sa maison, éventrée par l'explosion.
Moi, pendant la nuit, j'ai dormi ici. On dormait vers 23h. Il y a eu des dégâts, des bruits. Surtout des bruits, des obus et des grandes armes. Ça a eu peur, beaucoup enfui pendant la nuit.
La toiture est déchirée, les vitres soufflées par l'onde de choc. Une fillette a été blessée.
Elle dormait ici pendant l'événement. Le sang que nous voyons, c'est pour la petite fille. Elle a perdu beaucoup de sang ici.
Le sol est jonché de munitions de tout calibre et d'obus pour certains non explosés. Selon lui, le drame aurait pu être évité.
Ça, c'est pas pour la première fois, c'est la deuxième fois en 2017 et maintenant, c'est la deuxième fois. L'État normalement devrait éviter ça. Mais les peuples ont demandé longtemps pour que ces cas soient déplacés, mais l'État n'a pas écouté leurs cris. Donc aujourd'hui, les dégâts matériels sont considérables.
Lors d'une conférence de presse, le ministre des Armées a promis de construire des entrepôts plus sécurisés et de déplacer ceux du centre-ville. Carole Valade, N'Djamena, RFI.
Le Cameroun n'a pas honoré, dans les temps, ses engagements financiers vis-à-vis du Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour le cycle 2021-2023. Ce fonds fonctionne sur le cofinancement. et Yaoundé doit réagir pour éviter une réduction des sommes disponibles pour les années à venir, Amélie Tulé.
Oui, le Cameroun n'a payé qu'un tiers de sa part pour le moment, environ 34 millions d'euros sur les 123 attendus. Mais toutes les dispositions sont prises, assure le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, met en cause un blocage au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale, limitant les transferts de devises destinés aux comptes du Fonds mondial à Genève. De son côté, le Fonds mondial précise ne pas avoir réduit pour l'instant la subvention allouée au Cameroun dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, mais rappelle que le non-respect des obligations de cofinancement peut entraîner, donc à l'avenir, une réduction des fonds de subvention disponibles. Autre point soulevé par la mission du Fonds mondial il y a 4 mois au Cameroun, des ruptures de stock de médicaments en raison de paiements tardifs ou insuffisants, des centaines de milliers de dollars perdus en attendant le dédouanement de produits de santé. Aussi, et ça a fait beaucoup réagir au Cameroun, Nicolas, des congélateurs, de laboratoires d'occasion, parfois hors d'usage, défectueux et de marques différentes. Des commandes passées auraient été découvertes sur le terrain. À ce sujet, le ministre de la Santé a annoncé une enquête administrative.
Les sports du football, ça s'arrange pour l'AS Vita Club de Kinshasa. Après avoir remporté la Coupe du Congo de football, la FIFA vient de lever la mesure qui interdisait à ce club de recruter. V-Club s'est acquitté d'une amende de 10 000 euros, sanction tombée l'an dernier suite à un litige qui l'opposait à son ancien attaquant Ismaël Diarra. L'emblématique club de Kinshasa peut désormais préparer sereinement la saison prochaine, Olga Massangou.
C'est une très grande satisfaction pour les clubs d'abord et nos supporters aussi, parce qu'il faut reconnaître que nous avons souffert de cette suspension.
Satisfait, mais surtout soulagé après la levée de cette suspension, Amadou Diaby salue la décision de la FIFA qui permet désormais à l'ASV Club de recruter et de renforcer son effectif pour la saison prochaine. Le président des Verts et Noirs de Kinshasa révèle que malgré l'interdiction de recruter, sa cellule mise en place depuis janvier dernier a poursuivi le travail de détection. L'heure n'est plus qu'à la finalisation des contrats avec les joueurs sollicités.
J'ai trouvé la suspension, mais on ne devait pas baisser les bras. J'avais mis en place les cellules de recrutement depuis le mois de janvier et on suivait des joueurs à travers des différents championnats en Afrique. Nous avons conclu nos discussions et les joueurs commencent à venir.
Seuls 10 des 30 joueurs parmi ceux qui ont composé l'effectif de la saison qui vient de s'achever sont retenus. Qu'en est-il alors de l'avenir du coach Abdeslam Ouadou?
Notre projet est très ambitieux. Il a signé le contrat pour tout organiser. Donc nous sommes là encore avec lui. Il a un contrat avec nous de 3 ans.
Cinquième au championnat de la Lina Foot, l'ASV Club qui n'a sauvé sa saison que grâce à son succès à la Coupe du Congo veut reconquérir le titre au championnat et briller à nouveau sur la scène africaine. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
Il est 14h47 à Paris. Benoît Almeras, les grands titres de ce jeudi 20 juin 2024.
Des partis engagés dans les législatives en France face aux responsables du patronat français. Aujourd'hui, deux partis attendus. Le nouveau Front populaire demande un effort aux milliardaires. Le Rassemblement national veut rassurer sur les dépenses. Nous y revenons dans nos prochaines éditions. Au Hadj, en Arabie Saoudite, le nombre de morts est de nouveau revu à la hausse. Plus de 1000 morts selon un nouveau décompte aujourd'hui en raison des fortes chaleurs qui s'abattent sur la Mecque et l'ensemble du pays arabe. La plupart des victimes sont d'origine égyptienne. Enfin, l'armée israélienne continue ses bombardements sur la bande de Gaza pendant que la tension reste vive à la frontière israélo-libanaise après des menaces du chef du Hezbollah contre Israël et l'annonce d'une possible offensive au Liban. Dans un discours hier, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a averti qu'aucun lieu en Israël ne serait épargné par les missiles de son mouvement en cas d'attaque contre le Liban. Plus d'un milliard de dollars ont été annoncés ce matin au sommet mondial de la vaccination pour accélérer la production de vaccins en Afrique. L'Afrique qui importe la quasi-totalité des vaccins dont elle a besoin. Pourquoi ? Comment développer des usines sur le continent ? Le docteur Ngachi Ngongo, chef du bureau exécutif du CDC Afrique, l'agence de santé publique de l'Union africaine, est notre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour docteur Ngongo.
Bonjour Nicolas.
À l'heure actuelle, docteur, l'Afrique ne produit que 1 à 2% des vaccins dont elle a besoin. Pourquoi l'industrie vaccinale ne se développe pas sur le continent ?
Il y a une conglomération de plusieurs facteurs. C'est vrai qu'il y a d'abord la prise de conscience, si on peut commencer par là, qui n'est ressortie effectivement que lors de la crise de la pandémie de Covid. Quand les décisions ont été prises pour la distribution des vaccins, c'est en ce moment-là qu'on s'est rendu compte que l'Afrique n'était pas prise en considération.
Et quelle ça, était
ça
la
a été un déclic. pour réaliser maintenant que l'Afrique, en réalité, ne produit que moins d'1% de vaccins qu'il consomme. Alors, à côté de ça, il y a d'une part la capacité de production qui est vraiment limitée. Il y a le problème de l'accès au financement. Il y a des problèmes liés au marché. Aujourd'hui, en Afrique, chacun achète individuellement et vous pouvez comprendre ce que ça a comme impact, c'est que les quantités étant limitées, donc les coûts sera beaucoup plus élevé. Et puis finalement, il y a tout ce qui a rapport avec la régulation. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui ont fait que la fabrication locale est restée en retard jusqu'à ce jour.
Quand vous parlez d'un manque de régulation, c'est parce qu'il y a un déficit d'agences africaines capables d'homologuer des vaccins qui seraient produits sur le continent selon les critères exigés par l'OMS ?
Exactement. Donc, il y a ces déficits sur le continent, d'une part. Et même le processus de l'OMS qui devrait aussi aider, c'est un processus qui est long, qui est coûteux pour la plupart. Donc maintenant, il y a des efforts que Africa CDC est en train de pousser sur deux fronts. D'abord, sur le continent africain, nous sommes en train de travailler avec l'Agence africaine des médicaments, AMA, pour essayer de voir comment est-ce que cette agence peut vraiment s'établir et commencer à travailler. Et permettre maintenant qu'une fois qu'un médicament est homologué, il n'a pas besoin d'être homologué dans tous les 55 pays d'Afrique à cause du coût que cela constitue. Comme ça, c'est une seule homologation qui permet que le produit soit utilisé partout. Mais l'agence n'est pas encore fonctionnelle. Donc, en attendant, il y a au moins 5 agences sur le continent qui ont atteint un niveau de maturité 3, comme on appelle, c'est-à-dire un niveau suffisant qui leur permettrait de faire cette homologation. C'est avec ces agences-là que nous sommes en train de travailler maintenant pour leur donner tous les moyens dont ils ont besoin de façon à ce qu'elles soient en mesure de faire le travail. Comme ça, on va dans une approche régionale. C'est-à-dire, si l'Agence de l'Afrique du Sud a homologué, ça permet aux pays qui sont dans cette région australe de pouvoir utiliser les vaccins sur base de cette homologation. Mais dans l'entend, on n'a pas laissé le processus de l'OMS aussi. On a eu une très, très bonne réunion avec l'OMS à Addis Abeba il y a quelques mois, où on a eu une concertation vraiment pour voir comment est-ce qu'on pouvait alléger la tâche, donc alléger le processus pour permettre aux producteurs africains d'aller dans ces processus pour être homologués aussi, parce que nous voulons que le produit, les vaccins qui sont homologués soient aussi vendus ailleurs. Donc, ce n'est pas seulement pour le marché africain, il peut y avoir des crises aussi ailleurs dans d'autres continents. Et cela ne peut se faire que si les produits sont homologués par l'OMS. Donc, c'est pourquoi on travaille aussi bien sur le continent pour notre homologation qu'avec l'OMS pour aussi une homologation qui permettrait que les produits africains soient vendus ailleurs.
Docteur Ngongo, qu'est-ce que ça changerait concrètement que les vaccins soient produits en Afrique et qu'ils ne soient pas achetés à l'étranger, en dehors du continent ?
Ça changerait beaucoup. C'est pourquoi vous avez entendu le directeur général d'Africa CDC parler de la deuxième indépendance de l'Afrique. Ça changerait beaucoup.
Ça changerait
donc,
quoi ?
Dans un premier temps, ça permet d'assurer l'autosuffisance en termes de disponibilité. Parce que maintenant, nous avons la capacité de produire localement, même s'il y a une autre crise internationale, comme on a vu avec la COVID-19, où chaque pays ou chaque continent voudrait produire pour leurs besoins. En ce moment-là, l'Afrique sera aussi en mesure de produire pour ses propres besoins. Ça, c'est un. Bon, et puis de deux, c'est aussi le fait que la production locale, c'est toute une économie. Dans un continent comme l'Afrique, c'est toute une économie donc qui sera développée, ça va contribuer à la création de l'emploi, qui est vraiment indispensable pour booster nos économies et d'agir aussi sur les déterminants sociaux de la santé. Donc c'est ce bénéfice double-là qui est fait que la production locale devient extrêmement importante pour le continent africain.
Alors on a compris que construire une usine de production de vaccins, ça coûte très cher et que les ressources financières font parfois défaut. Mais est-ce que les ressources humaines existent ? La compétence ?
Non, il y a encore des déficits, que nous devons l'avouer. Nous avons fait une cartographie des usines de production qui existent sur le continent africain, tout récemment, là, en collaboration avec la Fondation Clinton et nos collègues de PASS. On a trouvé qu'il y a 23 usines de production de vaccins sur le continent africain maintenant. Mais de ces 23, il y a 9 qui ont la capacité de production commerciale. Seulement 9 sur tout le continent. Et de ces 9-là, il y a 3 seulement qui sont en mesure de produire le vaccin entre 2025 et 2030. Vous voyez que cette capacité est vraiment faible et la capacité humaine vraiment aiguë. C'est la raison pour laquelle parmi les priorités de l'action d'Africa CDC sur le continent pour essayer de booster la production locale, il y a le renforcement aussi des capacités humaines avec le développement de talents. Donc, nous sommes déjà lancés avec certains partenaires qui accompagnent comme la Fondation Mastercard pour commencer à développer ces programmes-là sur le continent africain.
De quel vaccin l'Afrique a-t-elle aujourd'hui prioritairement besoin ?
Donc aujourd'hui, l'Afrique a besoin des vaccins d'abord de routine. Donc on parle de l'hexavalent, on parle de vaccins de la pneumonie, on parle de vaccins de la méningite, de la rotavirus. Et puis on parle de vaccins de la fièvre jaune, de vaccins de la polio, des vaccins de choléra, et on a besoin encore de vaccins de la rougeole. Bon, mais en plus de ça, il y a deux vaccins extrêmement importants. C'est le vaccin contre le paludisme, comme vous connaissez, que le paludisme, c'est une maladie endémique, et le vaccin pour la prévention des cancers du col, dont les HPV, extrêmement importants. Donc voilà les vaccins dont on a besoin sur le continent.
Merci Ngachin Gongo. Je rappelle que vous êtes chef du bureau exécutif du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Gros plan à présent sur le travail d'une association tunisienne qui initie les enfants au cinéma. Depuis 2017, dans un pays où il n'existe plus qu'une trentaine de salles, essentiellement à Tunis, Sentier Massarib, c'est le nom de cette association, éduque à l'image et à la culture cinéma et par la même occasion à l'art du débat et de la prise de parole en public. À Tunis, le reportage de Lilia Blaise.
C'est dans une école primaire, nichée dans une ruelle du centre-ville de Tunis, que résonne la voix d'Antoine Douanel, héros des 400 coups de François Truffaut. Devant le mur où est projeté ce classique du cinéma, un groupe d'enfants suit l'action et les bêtises du jeune Antoine. Pour Insaf Majta, enseignante universitaire et cofondatrice de l'association Sentier, le choix du film n'est pas juste destiné au divertissement.
La représentation de l'enfance revient souvent dans notre programmation. Et puis, c'est un film aussi où il y a une représentation de l'institution scolaire. Et c'est aussi pour amener donc les élèves à réfléchir sur l'école, sur la représentation de l'école. C'est l'occasion aussi de réfléchir sur la question de la discipline. Et également sur ce qui est considéré comme une délinquance dans le film et qui est à relativiser.
Autant de pistes de réflexion qui servent ensuite à alimenter un débat entre cinéphiles novices après la projection. Outre la compréhension du film, Insaf tente aussi d'amener les enfants à s'interroger sur les thématiques de la liberté, de l'enfance, dans un cadre de prise de parole égalitaire, à rebours du côté encore très scolaire des écoles.
À partir des réponses, on apporte des précisions. Et d'abord, on leur demande de répondre à la question d'un camarade. C'est pas nous qui répondons en premier lieu, pour ne pas être justement la source du savoir et de la connaissance.
Si les enfants échangent facilement après une année de projection, les débuts n'ont pas toujours été faciles pour les petits, qui pour la plupart ne sont jamais allés dans une salle de cinéma.
L'expérience a montré qu'au tout début de l'année, les élèves sont incapables de regarder un film sans chahuter. Et on travaille sur ça, justement, sur une intériorisation progressive du rituel d'une projection.
Malgré l'ouverture de multiplex après la Révolution, le cinéma n'est pas une pratique culturelle très répandue. L'association Sentier aide à sa démocratisation en offrant aussi des ateliers d'introduction à l'analyse de films pour les adolescents, l'accompagnement de la création de ciné-clubs et une ouverture sur les cinémas d'Afrique. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Et c'est à Tunis que s'achève cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Michael Goncalves et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr, restez sur RFI si vous êtes en Afrique de l'Ouest. L'info continue en full day, 30 minutes préparées par notre rédaction à Dakar. Dans les pays lusophones, 30 minutes d'info en portugais. Et pour le reste du monde, la suite de RFI Midi avec le journal des Amériques et d'Haïti. Bon après-midi sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Dans notre émission Questions de femmes, nous parlons des fausses couches et de la crise du postpartum. Quel accompagnement pour retrouver ses repères et son équilibre?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Maroc-Algérie, rendez-vous à la frontière. Crainte d'une escalade, rivalité régionale. La frontière est au cœur de la crise entre Rabat et Alger. Mais la question frontalière est aussi un enjeu dans toute la région. Carrefour de migration entre l'Europe et le continent africain.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.